Coqs en conte, d'après Elisabeth Lemire. Nous avons, nous, Français, une relation étrange avec le coq, liée par une étymologie qui ne peut se dénouer. Car si Gallus veut dire coq, Gallus se traduit aussi par gaulois. Qui dit coq, dit gaulois, si l'on se fie à l'étymologie. Et pourtant, nous avons fabriqué l'expression pléonasmique « le coq gaulois ». Il serait donc impossible de dissocier le coq du gaulois et le gaulois du coq, au point qu'aujourd'hui, encore, les supporters de l'équipe des Bleus ne partent jamais pour l'étranger sans un coq gaulois qu'ils emblématisent dans les tribunes des stades. Le fanion n'est pourtant pas glorieux. Là où les Anglais dressent sur leur étendard un léopard ou un lion, les Allemands un aigle à une ou deux têtes, nous, nous avançons, selon le mot de Napoléon Ier, sous la figure d'un oiseau qui chante sur le fumier. Plus familièrement, nous disons les pieds dans la... n'est-ce pas ? Déjà, au Moyen-Âge, le coq apparaît en bête qui passe sa vie à batailler pour régenter et posséder ses poules. Il est la figure de la luxure. Fanfaron et sot, il est dans les fabliaux la victime du renard. C'est cette vision populaire du coq qui met en scène le Chanteclerc d'Edmond Rostand, pièce en quatre actes de 1910. Chanteclerc est un coq fier qui règne sur sa basse-cour. Son chant est si puissant qu'il est persuadé qu'il fait se lever le soleil chaque jour. Mais un jour qu'il est fasciné par une belle faisane, il oublie de chanter. À la risée de tous, le soleil se lève quand même. La langue n'a de cesse de cocoricoquer le coq et ses travers. Ces dérivés montrent comment le mot, et donc la bête, ont fonctionné dans une société. Si « coquard » est d'abord un vieux coq, il s'utilise familièrement pour dire un fanfaron ou un benêt. Un « cocâtre » est un demi-chapon, mais aussi un homme qui chante comme s'il avait été châtré. Un coquebin ou coquebert est un niais ou un sot. Coqueliner, c'est chanter en parlant du coq. Mais un coquelineux est un homme qui court après les jeunes filles en faisant précisément le coq. Coqueter, c'est se pavaner, ainsi qu'un coq au milieu de ses poules. Coquette, une femme bavarde, puis une commère polissonne. Coquet, qui à l'origine désignait une girouette, désigne un homme qui cherche à séduire. Peut-être coquin et ses dérivés. Coquiner, sa coquinée, coquinette, viennent-ils du coq? Faire le coquinant, c'est mendier. Coqueter ou coqueriquer, c'est caqueter. Inventé, semble-t-il, par Rabelais, coquecigru, baliverne et autres absurdités, détermine un être du seul imaginaire. Et oui, prévoir un événement à la seule venue des coquecigrues, c'est dire qu'il n'arrivera jamais. Un coquefredouille est un être ridicule dont on se moque. Un coqueplumé est un homme qui fait le coq, un fanfaron en costume éclatant qui bat le pavé en portant en panache. D'autres mots, morts et oubliés, rapportent du passé des faits de sociétés oubliées. Ainsi, un coqueleux était un homme qui dressait l'animal pour des combats de coq. Et les expressions telles que « sauter du coq à l'âne », propos rompus dont la suite n'a rien à voir avec le commencement. Comme si quelqu'un, dans un discours, avait commencé à parler de son coq et soudain de son âne, alors qu'il n'en était nullement question. Mais au XIVe siècle existait déjà une expression plus graveleuse. Saillir du coq à l'âne, ou saillir du coq en l'âne. Mais l'âne désignait jusqu'à la fin du XIIIe siècle la canne, coin coin. Il s'agirait alors du rapport incongru d'un coq à une canne. Si l'on veut bien se rappeler que le sens premier de « sauter » est aujourd'hui encore « couvrir une femelle ». Autre expression, un coq de village, c'est un homme qui se donne des airs d'importance et qui assure sur les femelles d'alentour sa virile domination. Nous ne citerons ici personne. Se retrouver comme un coq en pâte en fait un coq qu'on empâte, donc qu'on engraisse, non pas pour le manger. C'est qu'il est bien traité, douillettement, par ses femmes. Mais curieusement, c'est de l'étranger que la figure du coq a sans doute été imposée comme emblème des Français. Un texte anglais avance l'hypothèse que si le coq est le symbole de la Gaule, c'est pour rendre compte à l'effroyable sottise de ses habitants. Au cours de la guerre de Cent Ans, les mêmes Anglais n'auront que mépris pour cet oiseau dont le léopard normand ne fait qu'une bouchée. Lors des guerres d'Italie, les impériaux, à leur tour, se moquent de ce coq qui fuit devant l'aigle souverain. La figure n'était pas facile à redorer. Il a donc fallu inventer des significations flatteuses à cet oiseau-là. À la Renaissance, on se mit à redécouvrir la civilisation gauloise et donc revint le coq qui, par bonheur, était prestigieux. Une bague découverte à Lyon montrait un coq sur un char que traînaient deux lions. Le bijou reconnu gaulois annonçait la victoire du roi de France sur les lions vénitiens. Chez les Indiens, on prétend que les poulets sont des créatures du dieu soleil. Le chant des coqs au petit jour scande le temps. Le soleil les a installés à ce poste-là pour réveiller les hommes. La mythologie nordique confiera à la créature solaire une note de gardien. Chez les Germains, le coq à la crête d'or garde le mont de l'arc-en-ciel, barrière qui mène au domaine des dieux. Ce coq, on le retrouve dans l'Occident chrétien sur les flèches des clochers. La naissance de Louis XIII fut commémorée par une médaille sur laquelle est gravé un coq. La Révolution française reproduisit l'image du volatile sur ses assignats. Les républiques de 1792 et de 1848, comme la monarchie de 1830, perchèrent le coq sur le drapeau français. Sous la Troisième République, il ornera le revers des pièces d'or frappées à partir de 1899. Ainsi s'effaça définitivement l'image négative du coq. Petite histoire, savez-vous pourquoi le coq a la crête rouge? Un jour, un coq et un canard s'en allèrent de concert se promener au bord d'un fleuve. Tout en se pavanant, le coq se vantait de sa beauté. Il se moquait du canard. « Avec tes pattes qui ressemblent à des feuilles d'arbre et ta démarche dandinante, ce que tu peux être ridicule !» Le canard lui répondit « Toi, tu as une paire d'ailes magnifiques. Quelle chance tu as! Je suis sûre qu'avec elle, tu peux traverser d'un trait le fleuve. » Le coq, qui ne voulait surtout pas avouer qu'il ne savait pas voler, prit son élan et au beau milieu du fleuve, tomba. Comme il ne savait pas nager, il allait sombrer quand il cria « Au secours !» Le canard eut au fait de le rejoindre et de l'aider à rejoindre la rive. Alors il lui dit « Tu vois, c'est grâce à mes vilaines pattes que tu es en vie. » Le coq resta coi et rougit de honte. Depuis lors, la crête des coqs est restée rouge.